Il y a une phrase du prophète Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Au chapitre 3, verset 18, il dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Et ce verset, cette parole prophétique illustre bien le texte qu'on va voir ensemble dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans notre série sur les Éphésiens. Vous verrez la différence. Et je vais lire donc dans le chapitre 5 de l'épître de Paul aux Éphésiens à partir du verset 5. Éphésiens 5, 5. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera ». Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous verrez la différence. Et dans ce passage, on voit la différence. Il dit qu'il y a certains qui ont part au royaume de Christ et que d'autres n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ. Qui est-ce qui n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ ici? Les débauchés, les impurs, les cupides, les idolâtres. Ceux qui ont d'autres dieux que le vrai Dieu. Ceux qui idolâtrent l'argent, ceux qui idolâtrent le sexe, ceux qui idolâtrent la débauche, l'immoralité, l'impureté, le matérialisme, n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ. Tout le monde n'ira pas au paradis. Et dans beaucoup d'églises maintenant, c'est l'inverse qu'on enseigne. On dit « Dieu est bon, Dieu est amour, on ira tous au paradis ». Si on n'y va pas parce qu'on est bon, on ira après le purgatoire, parce que le purgatoire va nous purifier. Dieu ne peut pas envoyer des gens en enfer. Mais si vous lisez correctement toute la Bible, si vous lisez correctement les paroles du Seigneur Jésus, il parle de la géhenne, il parle du lieu de tourment, du lieu où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Et Jésus, s'il plaide avec tant de cœur, c'est parce qu'il y a un enfer, parce qu'il y aura un jugement et que tout le monde n'ira pas au paradis. C'est seulement ceux qui ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, qui ont saisi le pardon en Jésus-Christ, qui ont un héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et puis, il dit aussi, il y a les fils de la rébellion, verset 6, hein, il y a ceux qui ont accepté le Seigneur, qui sont des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Et puis, il y a les autres qui sont encore des fils de la rébellion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils sont encore dans la révolte contre Dieu. La désobéissance. Quand la Bible parle de péché, elle ne parle pas seulement de commettre des mauvais actes, des choses immorales. Le péché, c'est aussi une rébellion totale contre Dieu. Il y a des personnes qui sont assez morales, mais qui sont dans la rébellion quand même. Ils n'ont pas une vie de débauche, ils ne sont pas des délinquants, des criminels, ils ont une vie assez posée, assez droite. Mais si vous leur parlez de l'Évangile, si vous leur parlez de Jésus-Christ ou de Dieu, tout de suite, la rébellion ressort. Et c'est ça qui condamne les hommes. Si vous êtes rebelle à Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé, aller au ciel, parce que le ciel, c'est là où se trouve Dieu. Et les autres, ceux qui ont accepté le Seigneur, deviennent, quittent le côté rébellion et deviennent des enfants de Dieu. On passe dans la famille de Dieu et on est son enfant pour toujours. Rien ne peut nous séparer de notre Père. Et puis, il y a aussi l'image, verset 13, de la lumière et verset 11, des ténèbres. Il y a les ténèbres et la lumière. C'est un thème qui est très fréquent dans l'évangile de Jean ou dans l'épître de Jean, mais Paul en parle aussi. La lumière, les ténèbres, il n'y a pas plus simple. Et ça remonte à la Genèse. Souvenez-vous, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il sépare quoi? La lumière des ténèbres. Il sépare la lumière des ténèbres. Aujourd'hui, les astronomes étudient très loin dans l'espace. Et les deux éléments fondamentaux qu'ils doivent étudier aujourd'hui, c'est la lumière, la vitesse de la lumière, les photons qui parcourent l'immensité, et Einstein qui a dit que la lumière pouvait avoir des courbes selon la gravité, la fameuse théorie de la relativité. Et ils étudient maintenant les ténèbres, parce qu'ils ont découvert qu'il y a certainement une matière qu'on appelle la matière noire, qui est une matière totalement invisible et qui expliquerait bien des choses dans l'univers, notamment que les galaxies soient sous forme d'agglomérats, que les étoiles ne sont pas dans le vide comme ça, répandues par hasard, elles sont agglomérées en galaxies. On ne comprend pas pourquoi, parce que dans le vide, normalement, il ne doit pas y avoir d'agglomérat, c'est le vide. Dans le vide, tout part comme ça, pshht. Une des explications, nous croyons que c'est parce que Dieu l'a voulu comme ça, évidemment, mais une des explications scientifiques, c'est qu'il y a une matière noire, il y a des ténèbres, et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Mais ça a un sens, évidemment, aussi spirituel. Dieu est saint et il ne se mêle pas avec le mal. Le yin et le yang, vous connaissez cette pensée orientale venant de l'hindouisme, entre autres, c'est qu'il y a un peu de bien dans le mal et un peu de mal dans le bien. C'est le dessin rond, vous savez, noir et blanc avec une tache noire dans le blanc, une tache blanche dans le noir. C'est l'inverse de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il y a les ténèbres et il y a la lumière et ça ne se mélange pas. Est-ce que je suis dans la lumière ou est-ce que je suis dans les ténèbres? Je ne peux pas être au milieu. Et puis, il montre aussi la séparation avec, toujours le verset 11, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, les œuvres stériles des ténèbres. Mais il dit, verset 9, le fruit de la lumière, c'est toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. On doit voir la différence. Il y a une différence. Un enfant de Dieu a des œuvres de justice, de bonté, de vérité. Un enfant des ténèbres a des œuvres stériles des ténèbres. On peut passer toute sa vie à faire des œuvres stériles. Arriver en fin de vie et se dire, regarder derrière et dire, qu'est-ce qui reste de ma vie? Zéro. Terrible. C'est terrible d'en arriver là. Et c'est pour ça qu'il faut se remettre en question régulièrement et de dire, est-ce que je vais laisser quelque chose? Est-ce que je vis pour l'éternité? Est-ce que ma vie compte? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis vrai? Non seulement il y a une différence là qui est claire dans ce passage, mais on est invité à faire la différence. On ne doit pas juste dire je suis différent, point à la ligne. Je dois faire une différence. Et dans tout le passage, on le voit, verset 7 par exemple, il dit « N'ayez aucune part avec eux. » N'ayez aucune part avec eux. Séparez-vous des fils de la rébellion. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il faut examiner. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce que je fais, ou ce que je pense, ou ce que je dis, ou ce que j'écoute. Verset 11. Condamnez-les, condamnez le mal, les œuvres des ténèbres. Verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le réveil. » Il faut faire la différence. Et ce sont des ordres que Dieu nous donne. Verset 16, « Rachetez le temps, c'est-à-dire faites compter vos jours. » Verset 17, « Comprenez la volonté de Dieu. » Verset 18, « Soyez remplis de l'esprit et pas de vin. » Verset 19, « Entretenez-vous dans la foi par des chants. » Verset 20, « Remerciez Dieu pour toutes choses. » La Bible a des côtés négatifs, mais des côtés positifs. Si vous n'êtes que dans le négatif, vous n'allez pas aller très loin. Si vous dites, « Ah, moi, Dieu m'appelle à être saint, donc je renonce à tout, je me prive de tout, et je m'enferme dans une chambre monastique, et j'attends que ça passe. » Ça, c'est nul, ça n'amène rien. Jésus n'a jamais demandé une chose pareille. Il a dit qu'il faut se séparer des ténèbres, oui, il faut condamner les ténèbres, mais il faut aussi faire des choses, se réveiller, chercher la volonté de Dieu, faire du bien, etc. Et j'aimerais qu'on réponde ensemble, qu'on regarde des questions qu'on peut se poser en regardant toutes ces choses-là. J'ai dit par exemple, n'ayez aucune part avec eux. Ça amène tout de suite une question. Est-ce qu'il faut rompre toute relation avec ceux qui ne croient pas en Jésus comme nous? Est-ce qu'il faut fréquenter que des chrétiens nés de nouveau? On peut se poser la question. Il dit, n'ayez aucune part avec eux. Aucune part. Et là, il faut faire attention. Si vous prenez un verset dans la Bible, tout seul, que vous en tirez votre vie, de votre doctrine, vous êtes en danger. La Bible est un tout. Il faut regarder tout ce qui est dit sur la question. Il y a un passage qui éclaire pas mal ce verset. C'est 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. C'est toujours Paul qui écrit, inspiré par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 9. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Et vous voyez bien que Dieu ne veut pas qu'on sorte du monde. Maintenant, verset 11, « Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est que si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il vit dans la débauche, qu'il vit dans la cupidité, il aime l'argent plus que Dieu, il est idolâtre, il aime quelque chose plus que Dieu, on ne doit pas continuer d'aller avec cette personne et l'encourager dans son péché et même tomber dans son péché. On doit à un moment dire, écoute, là je ne peux pas participer à ce que tu fais. Tu te dis chrétien, mais tu n'agis pas en chrétien. Parce que par-dessus tout, Dieu veut que son Église, ses enfants, sa famille soient saints. Si les chrétiens ne sont pas saints, alors les gens vont dire, mais Dieu, regarde, dans l'Église de Dieu, il y a des débauchés. Regardez ce que les gens disent sur les prêtres. Ça rime quasiment avec pédophile maintenant, prêtre. Parce qu'il y a des scandales partout, dans le monde entier, dans toutes les églises. Régulièrement, en Amérique du Nord en particulier, il y a des églises qui font faillite, c'est-à-dire ils sont obligés de vendre la cathédrale parce qu'ils ont payé trop d'argent en procès aux victimes de pédophilie. Il y a des cathédrales à vendre. Moi, on en avait une aux États-Unis. Il y avait un panneau, magnifique cathédrale à vendre. Tout est dépensé dans des procès. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas ce principe de sainteté, de séparation de la débauche. Et c'est surtout dans l'Église que ça doit se passer. On doit être saint. Si on s'appelle chrétien, on doit vivre digne du salut que Dieu nous a donné. On doit avoir une vie sainte. Bien sûr, on ne doit pas participer au péché des incroyants. Mais regardez Jésus. Jésus, on l'a accusé dans les évangiles continuellement de manger et de boire avec les pécheurs. Ah, il va avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il faisait le Seigneur? Il allait voir les gens qui étaient rejetés parce qu'ils vivaient dans le péché. Ça, c'est vrai. Il y avait des prostituées, il y avait des publicains. Les publicains, c'était des collabos, des traîtres, des gens qui idolâtraient l'argent. Ils étaient prêts à tout pour s'enrichir. Il y avait des lépreux qui, eux, n'avaient pas spécialement péché, mais qui étaient en dehors de la société, et Jésus allait vers eux. Et comme Jésus allait manger avec eux, parler avec eux, on disait, « Ah, oh, mais c'est vraiment quelqu'un d'horrible, il n'est pas saint. S'il savait combien ils sont pécheurs, il n'irait même pas mettre les pieds dans leur maison. » Mais Jésus était venu apporter la grâce. Et quand il allait dans leur maison, ce n'était pas pour participer à leur débauche, à leur idolâtrie. C'était pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut, du pardon de Dieu. Dans ce cas, oui, nous devons fréquenter les gens du monde pour leur apporter la bonne nouvelle, pour être un témoignage, une bonne odeur de Christ. Mais si on les fréquente pour aller dans les mêmes péchés, là, on désobéit clairement à la parole de Dieu. Et c'est là où il faut avoir un équilibre dans sa vie chrétienne. On ne peut pas se couper de tout le monde et dire « Ah non, mais moi je suis chrétien, ça y est, je ne veux plus voir personne. » Ce n'est pas la volonté de Dieu. On doit aller vers les pécheurs parce que nous étions perdus comme eux et on ne vaut pas mieux qu'eux dans le fond. Dans Éphésiens, il dit hein, « Vous étiez morts, vous aussi, dans vos péchés et vos offenses. Hein. C'est la grâce qui vous a sauvés. » Mais en tant que pécheur gracié, on veut aller le dire aux autres. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers les autres, même s'ils nous sont un peu repoussants. Oh, ça, c'est vraiment quelqu'un qui a une vie. Oh là là, c'est le contraire de ce que je voudrais comme vie. Mais il faut aller le voir parce que cette personne ne connaît pas encore le Seigneur. Il faut faire la différence. Pas comme on l'imagine. Pas en devenant des gens pudibonds et orgueilleux qui disent « Moi, je suis chrétien. Moi, je suis meilleur que tous ces pécheurs. » Ça, c'est ce que faisaient les pharisiens, mes amis. Les pharisiens critiquaient tout le monde qui n'était pas comme eux. Nous voulons être comme le Seigneur Jésus, aller chez les pécheurs, leur apporter la bonne nouvelle. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament de Daniel. Daniel vivait en captivité à Babylone, dans un pays d'idolâtrie. On lui demandait d'idolâtrer une statue d'un roi. Et Daniel est resté pur, il n'a jamais fait aucun compromis, il ne s'est jamais incliné, mais il a été un témoignage extraordinaire dans ce pays. Il a marqué Babylone. Ou un autre exemple, et bon, beaucoup d'enfants sont à côté, mais la petite fille qui a témoigné à Naaman, le général syrien, si vous connaissez cette histoire, hein, ce général qui ne connaissait pas l'Éternel et qui avait la lèpre, et il avait une petite fille juive qui était à son service. Et il était condamné à mort. Elle dit, ça y est, j'ai la lèpre, c'est fini. Non, je vais mourir. Et elle dit, mais tu sais, si tu connaissais notre Dieu et le prophète de Dieu qu'il y a dans mon pays, peut-être tu pourrais être guéri. Il dit, ah bon, qui c'est ce prophète? Alors, elle va voir le prophète. Et il va voir le prophète Élisée. Elle a été un témoignage, cette petite fille. Elle n'a fait aucun compromis avec le mal. Elle était là, sûrement en captivité aussi. Hein, mais elle a témoigné à ceux qui ne connaissaient pas l'Évangile. Une autre question. On a dit qu'il faut examiner ce qui est agréable à Dieu. Mais comment savoir que quelque chose est agréable à Dieu ou pas? Comment savoir si ça plaît à Dieu? Dieu nous a donné deux choses principales à nous qui avons le Seigneur. La Bible. La Bible, c'est le guide de la vie. C'est le manuel de la vie, de la foi. Dans la Bible, je sais ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est clair dans la Bible. Donc plus je lis la Bible, plus je sais ce que Dieu veut. Moins je la lis, plus je suis dans le flou et dans les ténèbres et je suis en danger de pécher, de faire quelque chose que Dieu ne veut pas. Deuxième élément avec la Bible, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en nous nous attriste, hein, comme on l'a vu, hein, il n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui cloche quand on vit dans le péché et qu'on ne s'en rend pas compte. Le Saint-Esprit nous en fait rendre compte. Il arrive qu'on pêche sans le savoir. Ça peut arriver. Quelqu'un qui n'a pas encore lu toute la Bible ou qui ne connaît pas certains éléments de la Bible, il vit, par exemple, quelqu'un qui vit en concubinage et il ne sait pas que dans la Bible, Dieu ne veut pas que les chrétiens vivent en concubinage. Mais le Saint-Esprit peut lui montrer, peut le toucher. C'est ce qui était arrivé. Cette chrétienne qui voulait se faire baptiser et Virginia devait lui donner des cours et elle s'est dit bon, elle vit en concubinage, il va falloir que je lui dise à un moment ou un autre. Mais elle dit j'ai peur d'arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, abruptement, Et elle a prié, et puis finalement, c'est la jeune fille qui a dit, j'ai une question à te poser pendant qu'on est dans ces cours. Je vis avec un garçon, on n'est pas mariés, qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. Et ça a ouvert la question et la réponse. Et elle a pu ensuite mettre en règle sa vie. Et je ne sais plus si elle s'est mariée ou si elle a quitté la personne, mais quoi qu'il en soit, la Bible et le Saint-Esprit nous montrent ce qui plaît à Dieu. Mais c'est à nous d'être à l'écoute. Si on fait sa vie sans jamais consulter la Bible ou le Saint-Esprit, on ne va pas avoir une vie chrétienne droite. Hein. Ça ne vient pas tout seul. Il faut faire la différence. Il faut chercher ce qui est agréable à Dieu. Examiner. Et puis, il dit aussi, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Comment doit-on condamner le mal? Grande question aujourd'hui. Une chose évidente, c'est qu'il faut dénoncer ce qui est faux. Il faut dénoncer l'erreur, dénoncer ce qui est mauvais, ce qui est du mensonge, ne pas faire de compromis. Le silence peut être un compromis. Quand vous laissez faire le mal et que vous ne dites rien, c'est une forme de compromission. Le chrétien doit dire, ah, ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Particulièrement dans l'Église, mais aussi même dans le monde. On doit dénoncer ceux qui se disent chrétiens et qui vivent d'une façon idolâtre ou débauchée. Maintenant, le monde, le péché ou le mal qui se commet dans la société, ou les lois qui passent, n'est-ce pas? Et j'aimerais répondre à une question en particulier. Que doit-on dire au sujet de l'homosexualité? Aujourd'hui, avec les lois, notamment en France, l'homosexualité est reconnue comme une forme alternative de sexualité. C'est-à-dire, vous pouvez être hétérosexuel ou homosexuel. C'est tout à fait pareil, c'est comme ça. Il y en a qui naissent homosexuels, il y en a qui naissent hétérosexuels. Et donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont le droit de se marier avec un homme avec un homme, une femme avec une femme. C'est ce que la loi dit et c'est ce que la société essaie de faire passer comme message. Et si vous dites que l'homosexualité n'est pas bien, tout de suite, on vous met une étiquette, homophobe. Tout de suite, vous êtes quelqu'un de dangereux, d'intolérant, de méchant, de violent. Et vous êtes vraiment quelqu'un d'horrible. Même peut-être un jour, il faudra vous enfermer. Ça peut arriver. Et c'est déjà arrivé dans certains pays. Qu'est-ce que dit la Bible? Et comment on doit parler de cette question? D'abord, la Bible est claire que l'homosexualité, la pratique homosexuelle, le fait de avoir des relations sexuelles, homme avec homme, femme avec femme, est un péché, même c'est appelé une abomination. Lévitique 18, 22, dans la loi de Dieu. « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » 1 Corinthiens dans le Nouveau Testament, 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels n'hériteront le royaume de Dieu. La Bible, on ne peut pas être plus clair. On peut toujours essayer de chercher midi à 14h, mais là, ces deux versets sont absolument clairs. Mais remarquez que les adultères sont dans la liste. Là, c'est un peu plus dérangeant. Oui, les homosexuels, moi j'aime pas les homosexuels, c'est un péché, ils vont en enfer. Et les adultères? Eh oui, mais les adultères, ils sont dans la liste. Les débauchés, les pornographes, les idolâtres. Et il faut faire la part des choses. C'est que l'homosexualité est considérée, la pratique homosexuelle, comme un péché. Mais c'est un péché qui peut être pardonné, on peut être sauvé, comme de toute autre pratique condamnée par Dieu. Et il ne faut pas juste pointer les homosexuels, il faut pointer tout péché, tous les péchés. L'amour de l'argent est un péché. Quand on idolâtre l'argent, on veut s'enrichir à tout prix. Et ça vous empêche d'aller au ciel. Il faut renoncer à l'amour de l'argent. Alors on nous dit, mais les homosexuels, les pauvres, ils n'ont pas choisi. Ce n'est pas qu'ils veulent vivre dans le péché, c'est qu'ils ressentent une attirance En fait, ils ont souvent un problème d'identité sexuelle, mais ils ne sont pas nés homosexuels. Ça, scientifiquement, biologiquement, c'est absolument faux. Il n'y a pas de gène ou de naissance homosexuelle. Vous ne naissez pas avec l'homosexualité. C'est évident que l'être humain était conçu par Dieu pour être un homme avec une femme, pour avoir des enfants. Tout le reste est contre nature. Alors, nous voulons aider les homosexuels, d'abord leur parler du Seigneur, de l'Évangile, mais il faut être clair avec eux, leur dire, écoute, la pratique homosexuelle est un péché. Devant Dieu, tu ne peux pas aller au ciel en restant dans la pratique homosexuelle. Il y a des homosexuels qui n'arrivent jamais, qui deviennent chrétiens, mais qui n'arrivent jamais à aimer vraiment, à être attirés par une femme, ils restent célibataires. Il y a des homosexuels qui quittent la pratique homosexuelle et qui se marient parce qu'ils ont rencontré le Seigneur, ils sont devenus chrétiens et ils regardent leur vie passée et disent oui, j'étais perturbé, j'étais pas bien, j'étais mal dans ma tête. Et les homosexuels souffrent pas seulement du regard des autres qui dit ah, oh, ce sont des homosexuels, ils souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur identité sexuelle, dans la façon dont ils vont à l'encontre de la création de Dieu. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la création de Dieu et aller bien. Forcément, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui cloche. Et on doit, nous, enfants de Dieu, être à l'écoute de ça, être compatissants et les aider à voir clair et les amener au Seigneur. Si ils refusent et ils disent non, mais moi, je suis né comme ça et tout ce que tu dis, c'est n'importe quoi, la Bible, c'est n'importe quoi, il faut continuer à leur parler, à les aimer, à prier pour eux. Mais évidemment, les haïr n'est pas la volonté de Dieu. On ne hait pas les gens parce qu'ils sont dans le péché. Dans ce cas-là, Dieu nous aurait haïs et nous aurait condamnés nous aussi. Nous sommes pécheurs comme les autres. Et puis, il dit aussi dans ce passage, faites la différence, réveille-toi, toi qui dors. Le réveil spirituel. Quelques siècles après la Réforme, les églises protestantes se sont profondément endormies. Même pas quelques siècles, un siècle après la Réforme. Ils avaient découvert l'Évangile, ils avaient redécouvert la Bible et tout ça. Ils étaient tout feu, tout flamme pendant quelques années. Et puis très vite, comme ils baptisaient les bébés, on était protestants de père en fils. Les messages sont devenus mous et l'Église est devenue un peu politique, etc. Ceux qui étaient persécutés, ils gardaient la foi très fort. Puis ils sont allés, ils ont émigré aux États-Unis, en Angleterre. Et là, ils étaient dans le calme et là, ils se sont endormis tranquillement. Et Dieu n'aime pas que son Église dorme. Et Dieu a envoyé des réveils spirituels, les réveils hein, du 18e siècle et du 19e siècle. Ça a balayé l'Angleterre, les États-Unis, des pays entiers, souvent anglophones. Il y a eu des réveils aussi en France. Pas beaucoup, mais il y en a eu aussi. À Paris, il y a eu un réveil, début du 20e siècle, parmi les ouvriers. On n'en parle pas souvent. Ou des ouvriers qui avaient une vie très dure, qui était souvent dans l'alcoolisme et dans beaucoup de choses difficiles, dans la débauche et la violence. Et ils ont entendu l'Évangile. Il y avait notamment la fille de William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Sa fille, la générale, était là à Paris et elle allait dans les rues, dans les quartiers. Elle prêchait l'Évangile, elle parlait à ces hommes et ces femmes. Et beaucoup sont venus au Seigneur. Mais on a souvent besoin d'un réveil. Le réveil, ce n'est pas simplement que Dieu tombe sur une église et que les gens se mettent à vivre pour Dieu. Ça, c'est l'idée romantique du réveil. Parce que le réveil, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La part de Dieu, c'est qu'il veut qu'on soit toujours rempli du Saint-Esprit. Donc Dieu ne se satisfait pas quand on est un chrétien médiocre. Dieu ne vous laissera pas tranquille. Il va vous toucher, il va vous éprouver, il va vous envoyer même des châtiments pour vous réveiller. Vous allez avoir des problèmes de santé ou des problèmes d'argent, des problèmes de ceci, de couple ou je ne sais pas, des problèmes qui vont arriver à vous dire, Seigneur, j'ai besoin de toi et ça va vous réveiller. Des fois, il n'y a que les problèmes qui nous font nous réveiller malheureusement. Ça, c'est la part de Dieu qui veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Mais notre part, c'est d'accepter ce rôle du Saint-Esprit, de dire, Seigneur, je veux être rempli de Dieu, je veux être à fond, je veux être à 100%. Le réveil, c'est l'action entre l'Esprit de Dieu et ma volonté pour revenir à l'état normal d'un chrétien. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas un état spectaculaire, extraordinaire. Être rempli du Saint-Esprit, ça doit être notre état normal. Et le réveil, c'est un moment où le chrétien qui dort ouvre les yeux sur son état spirituel. Et il se rend compte qu'il est loin de Dieu. Il y a cette émission que certains peut-être suivent, « Cauchemar en cuisine ». Vous avez un chef qui fait le tour d'un restaurant. Et très souvent, ça me fait penser à un réveil. Le chef, il arrive, les gens ne fichent plus rien, c'est le désaccord, la désunion, le cuisinier, il ne sait plus cuisiner, les gens se battent les uns les autres, la nourriture est avariée, enfin, c'est vraiment le cauchemar. Bon. Ils en rajoutent, hein, c'est de la télé-réalité, mais bon. Et le chef, il arrive et il réveille tout le monde, normalement. Hein. Et des fois, le cuisinier pleure et dit oh, « Je ne me rendais plus compte, vous savez, avec l'habitude, on laisse faire, on est négligent parce que ça fait des années que je travaille là, personne ne me dit jamais rien, alors moi, je continue. Oui, c'est vrai, c'est sale, mais on ne fait plus attention, moi, je ne le vois même plus, la saleté. » Alors que le chef, il arrive avec un œil tout neuf, il dit « Qu'est-ce que c'est que cette crasse-là ? C'est quoi ce steak qui est là depuis une semaine ?» D'un seul coup, il réveille tout le monde. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, d'une certaine façon, dans le cœur du chrétien. Le Saint-Esprit, il arrive dans votre vie chrétienne, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, si on accepte ce qu'il nous dit, on se réveille rapidement. C'est pour ça que dans les réveils, il y a des fois un état émotionnel intense où ça arrive de pleurer, ça arrive d'être bouleversé parce qu'on ouvre les yeux sur notre état. Mais c'est quelque chose de merveilleux parce que ça nous ramène à la plénitude du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit ? Ben, il faut lui donner notre cœur entier. Seigneur, prends ma vie. Il faut céder, il faut se rendre à Dieu. Il ne peut pas y avoir mon ego qui commande et le Saint-Esprit qui commande. Il faut que l'ego accepte d'être soumis au Saint-Esprit. Si l'ego veut diriger le Saint-Esprit, ça ne va pas marcher. Et le Saint-Esprit, qui est humble, justement, va s'effacer. Tu veux diriger, tu diriges. Et puis on se plante, on se plante, on se plante. Jusqu'au jour où on dit, peut-être que le Saint-Esprit avait raison, peut-être que la Bible a dit vrai. Et là, on laisse Dieu diriger notre vie à nouveau. Et on peut être rempli du Saint-Esprit. Dieu veut nous remplir. Il faut juste lui dire, Seigneur, viens, remplis-moi. Et il le fait. Que veut dire ? J'ai deux questions qui restent. Dans ce passage, il dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Qu'est-ce que ça veut dire « racheter le temps » ? Évidemment, ce n'est pas avec de l'argent, c'est faire valoir notre vie. Faire un tri dans notre vie. Peut-être vous faites le tri des fois dans vos affaires. Hein. Vous dites, ça je ne le mets plus, ça je ne le fais plus. Et vous jetez des vêtements, des chaussures, etc. Il faut faire le tri dans nos activités. Il faut faire le tri dans notre vie. Ça ne sert à rien. Ça même, ça m'éloigne de Dieu. Faire le tri. Imaginez qu'on vous dise, tu as 6 mois à vivre. 6 mois à vivre. Qu'est-ce que vous feriez des 6 mois ? Est-ce que vous regarderiez la télé 8 heures par jour ? Je pense qu'on ferait plein de choses si on avait 6 mois à vivre. Et Dieu nous appelle à vivre, en fait, chaque jour, comme si c'était le dernier. Est-ce que ma vie compte ? Est-ce que je rachète le temps ? Est-ce que mon temps compte ? Est-ce qu'il porte du fruit ? Et puis le dernier passage, il dit qu'on doit s'entretenir par des psaumes, des hymnes. Quel genre de cantique doit-on avoir dans l'Église ? Ce verset répond. On doit avoir des cantiques spirituels. Ça doit être spirituel. Spirituel, ça ne veut pas dire qu'on a des émotions ou qu'on pleure ou qu'on rit ou qu'on ferme les yeux. Ce n'est pas parce que vous fermez les yeux que vous êtes spirituel. Ça, c'est émotionnel. Ce n'est pas parce que vous avez des grands soupirs en chantant que vous êtes spirituel. C'est de l'émotion toujours. Dieu n'interdit pas l'émotion. Mais le spirituel est d'abord. Le spirituel, c'est quand le chant lui-même vous rapproche de Dieu. Et comment le chant me rapproche de Dieu ? C'est quand il touche mon cœur et ma volonté et mon esprit, tout mon être, par des paroles édifiantes, des paroles spirituelle, biblique. Rapprocher de Dieu, c'est pas encore une fois avoir une émotion, dire « Oh, j'ai senti une chaleur, j'aime Dieu, ça y est. » Ça, c'est de l'émotionnel. Ce qui touche, c'est quand un cantique vous donne envie d'obéir à Dieu. Un cantique vous éloigne du péché. Un cantique vous donne envie d'aimer vos frères et sœurs. Ça, c'est spirituel. Il y a des hymnes. Un hymne, c'est quelque chose qui doit vous faire marcher en avant. Dans les ailes de la foi, il y a beaucoup d'hymnes parce que c'est des cantiques un peu martiaux. Alors, on n'aime pas trop ce qui est martial. Mais en fait, c'est très important d'avoir des cantiques martiaux. C'est-à-dire qui vous donnent envie de... Allez, on y va, les gars. On est l'armée du Seigneur. Si c'est trop... Nian-nian, pardon du terme, je ne veux pas être méprisant. Si c'est trop de la guimauve, on va être là, on dira oh, « Dieu, je t'aime, mon Dieu, alléluia, tu es merveilleux. » Et on va être là, on va fondre sur la chaise, comme de la guimauve. Un hymne, on y va. Quand les gens chantent la Marseillaise, hein, ils sont droits debout. C'est l'hymne de la France. Nous, nous voulons des hymnes chrétiens, spirituels, pour le Seigneur. Des psaumes. Les premiers protestants ne chantaient que des psaumes qu'ils avaient mis en rime. Mais ça veut dire que c'est des morceaux de la Bible. Nous devons chanter la parole de Dieu. Voilà, il y avait plein de choses dans ce passage. Il faut faire la différence. Est-ce que je vais faire la différence? Est-ce que ma vie fait la différence? Est-ce qu'on voit la différence entre moi et un enfant, un fils de la rébellion? Entre moi et un fils des ténèbres? Est-ce que je suis réveillé? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que ma vie compte? Est-ce que je rachète le temps? Toutes ces choses sont là pour nous réveiller, nous titiller, des aiguillons pour nous faire aller de l'avant et faire la différence. Que l'Église soit pure le plus possible, pas remplie d'orgueilleux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, mais remplie d'enfants de Jésus qui aiment les pécheurs et qui vont vers eux.